Radio Barque pour cette troisième partie. Comme nous vous l'avions annoncé, on va parler de la forteresse de Salses-le-Château, à la frontière, ou plus exactement à l'ancienne frontière entre la France et l'Espagne. Tout le monde connaît ça, et notamment nos auditeurs des Pyrénées-Orientales. Alors là, on change d'époque complètement. Essayez de nous situer ceci historiquement, Lionel Isaac.
Alors, la forteresse a été construite à la fin du XVe siècle. 1492, c'est la découverte par Christophe Colomb des Amériques. Et on est 4-5 années après ces événements historiques. Donc on est vraiment à cheval entre le Moyen-Âge et la Renaissance, au moment où les rois catholiques vraiment commencent à être des grands souverains, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, en Espagne, et vont progressivement faire rayonner l'Espagne à l'échelle européenne.
Oui, c'est le début de l'Espagne triomphante, un peu.
Oui, c'est ce qu'on appelait le siècle d'or de l'Espagne, et on est vraiment dans ces prémices.
Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, donc la frontière entre les royaumes d'Espagne et les royaumes de France se situe à cet endroit-là, donc Salses-le-Château, en gros entre la Catalogne et l'Occitanie. Donc, pourquoi construire une forteresse à cet endroit-là particulièrement? Est-ce qu'il offrait un intérêt stratégique militaire particulier?
Alors,
c'est la frontière, certes.
C'est la frontière, c'est surtout une zone qui est extrêmement étroite entre le littoral, la mer.
Oui, des seuls passages possibles, voilà, peut-être.
Voilà, les étangs et les corbières, la montagne. Donc c'est une sorte de goulet par lequel on avait déjà des voies anciennes qui passaient. Et donc c'est un choix qui est fait de tenir une sorte de verrou par cet endroit très étroit. Et pour mieux contrôler le passage, évidemment, des marchandises, des hommes, mais aussi de contrôler vraiment le passage des armées, tout simplement.
Oui, bien sûr. Et les armées, effectivement, ça va servir aux armées parce que ça va être quand même une période de guerre entre la France et l'Espagne assez importante.
Oui, il y a énormément de conflits qui démarrent à partir
de la fin du XVe siècle. Les ambitions s'affrontent.
Des ambitions territoriales entre l'Espagne, la France et l'Italie. Et donc, dans ce jeu européen, la forteresse de Salses a un rôle très important.
Oui. Donc, la première forteresse, alors, c'est à quel moment, à quelle époque?
Alors, on est en 1497.
Oui, donc fin 15e.
Voilà. Et la forteresse, les travaux, le chantier va s'échelonner jusqu'en 1503, date à laquelle il y a déjà une première attaque, alors que le chantier n'est pas fini. Les troupes françaises attaquent la forteresse. L'architecte Ramiro Lopez est même présent dans la forteresse. Et il va subir l'assaut de ces troupes françaises qui va se solder par une première une victoire un peu à la Pyrrhus des Espagnols qui vont réussir quand même à repousser les Français après avoir fait eux-mêmes exploser un des bastions de la forteresse avec des explosifs pour repousser les troupes françaises.
Alors à propos d'explosifs, d'explosions, c'est une forteresse qui est très particulière, c'est pas du tout les châteaux forts qu'on connaît un petit peu partout, c'est une nouvelle architecture qui est étudiée pour résister à la nouvelle artillerie de l'époque.
Oui, en fait, on est ce tournant transition, en gros, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, où vont se développer la poudre à canon et l'artillerie et le travail du métal, donc, sur les canons, va énormément faire l'objet d'innovations. Et donc, l'architecte va essayer d'adapter. Donc, la forteresse est très implantée très près du sol, avec très peu de parties hautes pour ne pas s'exposer aux tirs de l'artillerie qui est de plus en plus meurtrière. Et donc l'architecte va vraiment réussir à adapter avec des parties aussi arrondies d'architecture pour faire ricocher ces boulets qui deviennent de plus en plus performants, ces boulets de métal qui prennent la suite de ces boulets en pierre qu'on envoyait sur les forteresses.
Oui, c'était une première au point de vue architectural à l'époque ou c'était déjà dans le vent?
Alors, on peut considérer que vraiment, à Salses, on a un premier champ d'innovation au niveau de cette architecture militaire. Ramiro Lopez est lui-même grand artilleur et ingénieur architecte. Donc, il va vraiment réussir à faire une synthèse entre ces nouveaux enjeux pour résister à cette artillerie d'assaut. Il faut qu'en gros, la forteresse tienne plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps qu'une armée de secours espagnole arrive. Donc il faudra des capacités de résistance pendant un mois pour cette forteresse qui accueille des cavaliers.
C'est sa mission définie, ça.
Oui, c'est l'objectif. On y installe une unité de cavalerie, des petits chevaux espagnols, voilà, qui sont installés là, avec une unité de cavalerie et de défense. Et donc, ils sont là pour tenir la frontière, vraiment, le temps que l'armée espagnole puisse arriver et repousser l'armée française. Voilà. Mmh. Et donc, l'architecture, elle est pensée comme une architecture très défensive pour pouvoir tenir le siège.
Oui, voilà, défensive et encore une fois, en tenant compte des nouvelles technologies d'armement, à savoir les boulets et l'artillerie.
Voilà, les boulets qu'on chauffe parfois pour faire prendre feu les forteresses. Et donc par exemple à Sals, on équipe un certain nombre de portes, de plaques métalliques qui sont censées repousser le feu de ces boulets.
Oui, voilà. D'où cette allure assez particulière.
Oui, une allure très particulière, très très enfoncée dans le sol, très massive, qui en font un lieu très difficile à prendre.
Alors l'endroit, ça y est, il est construit. Les vicissitudes militaires sont là. Ça va être donc un antagonisme, une lutte pendant pratiquement un siècle entre la France et l'Espagne, jusqu'à l'annexion du Roussillon, traité des Pyrénées, 1659, je crois.
C'est ça. Les traités des Pyrénées vont en fait reculer la frontière au niveau de la crête des Pyrénées et la forteresse, elle, va perdre son rôle tout simplement de défense.
Voilà, mais il y a eu plusieurs rebondissements. Ça, je te conquiers, je te reconquis.
Oui, la forteresse a connu de nombreux sièges vers 1630, notamment pendant ces guerres, la guerre de 30 ans là, qui agite toute l'Europe, depuis l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, l'Espagne. La forteresse va continuer à avoir un rôle très important et va être prise et reprise à la fois par les Français, reprise par les Espagnols. Et donc, on sent que vraiment là, s'est joué à un moment donné un avenir européen de ces grands royaumes. Et ça a joué un rôle très important dans ces périodes-là.
Voilà. Et puis alors on arrive à une époque où je crois qu'en France il y avait la théorie des frontières naturelles. Alors on pouvait pas admettre une frontière qui comme ça qui passait pas par la ligne de crête des Pyrénées. Donc les rois ont tout fait pour annexer cette partie-là.
Exactement. C'est vraiment le Roussillon est un lieu d'enjeu de bataille, de prise et de reprise et jusqu'à ce que on a en fait les différents royaumes arrivent à fixer au niveau romand des Pyrénées cette montagne de cette ligne naturelle comme vous l'évoquez et ça signe un peu la fin du rôle de cette forteresse qui progressivement n'a plus servi alors de prison sous Louis XIV pendant l'affaire des poisons.
Oui, c'est-à-dire ça après la conquête par la
voilà.
France.
Voilà.
Donc
voilà.
Évidemment, elle n'a plus de raison d'être, elle n'a plus en tout cas de rôle défensif.
Non.
Alors vous dites, elle a servi déjà de prison. Comme...
Oui, alors l'affaire des poisons, donc c'est une affaire qui entache le royaume. Ce sont
alors
des,
c'est
des...
Louis XIV à
oui,
l'époque.
Oui, oui, ce sont des empoisonneurs, et notamment la maîtresse de Louis XIV qui est approchée par des séries d'empoisonneurs, des grands de France aussi qui sont mêlés à cette sombre histoire de poison. Et lorsque une partie sont emprisonnés, on va les mettre au secret dans différents cachots et forteresses en France. Et donc... on choisit Mansals, qui est un lieu un peu isolé, très loin de Paris, pour y emprisonner une dizaine de prisonniers, qui vont être une partie d'entre eux au cachot à vie dans cette forteresse. Mais oui. C'est vraiment, je dirais, la fin de l'histoire de la forteresse en tant que lieu de pouvoir.
Oui, oui, oui. Mais alors cette forteresse, à un moment, elle sert plus à rien, à part qu'elle sert de prison pendant quelques années. Et après, on a dû se poser la question. Il fut un temps où Richelieu faisait détruire beaucoup de châteaux. Et que s'est-il passé par la suite?
Alors, il y a été question. Vauban fait des rapports, notamment sur les forteresses en Languedoc. On le sait. Il parle de Sals. On hésite, en effet, à complètement détruire la forteresse ou une partie. Mais la construction est tellement solide et tellement soignée. Il faut imaginer qu'il y a peut-être 20% de la cassette des rois catholiques qui ont été investis dans cette forteresse.
Attends,
c'est
ça,
exceptionnel. Ouais. Donc, un entrepreneur également, à un moment donné, veut acheter une partie de la forteresse et commence une démolition. Et puis finalement, le ministère de l'Armée et puis le ministère des Beaux-Arts dit on arrête tout.
Trop cher, trop difficile.
Trop compliqué.
Un peu comme certains bunkers allemands.
Oui, c'est une maçonnerie tellement impressionnante, entre 6 et 10 mètres d'épaisseur, certains remparts. Donc c'est impossible à démolir dans des conditions économiques favorables. Mmh. Et progressivement, on en utilise ouais. comme un stock de munitions, de
oui,
poudre.
Oui, voilà, ça devient une poudrière.
Une petite garnison qui devient une garnison vraiment en annexe. Et puis, dans les années 30, le ministère de l'Armée décide de le rétrocéder au ministère des Beaux-Arts, qui s'appellera plus tard le ministère de la Culture, pour l'ouvrir plutôt à la visite. voilà, du public, puisque c'est quand même la seule forteresse espagnole construite en territoire français qui est aujourd'hui visitable en France. Voilà, c'est on dit souvent faire des châteaux en Espagne. là, c'est plutôt une château espagnol qui est resté là par les hasards de l'histoire, par les vicissitudes de l'histoire, et qu'on peut voilà, qui est vraiment un témoignage qui a peu été transformé. Il est vraiment dans son dispositif d'architecture quasiment d'origine.
Oui, quasiment intouchable, finalement.
Voilà, quasiment, ce qui en fait aussi sa beauté, lorsqu'on rentre avec cette pierre qui a été amenée de la région d'Empurias ou du Roussillonnais. Donc, c'est vraiment un objet architectural très particulier et unique et qui en font aussi le plaisir de sa découverte.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci, Lionel Isaac. Donc, aujourd'hui, bien entendu, on peut aussi visiter la forteresse de Salses-le-Château avec les horaires de visite habituels, j'imagine.
Oui, nous sommes ouverts la grande partie de la journée et nous ouvrons une nouvelle exposition photographique à partir du 7 juin pour présenter les photographies de grands forts aussi abandonnés qui permet d'avoir un autre regard aussi sur ces grandes forteresses de frontières.
Merci Lionel Isaac pour toutes ces explications. Le prochain invité de Radio Bac sera un de vos collègues, puisque nous recevrons Franck Doucet, qui lui exerce la même mission que vous, alors ça s'appelle les remparts de Carcassonne, les remparts et la cité de Carcassonne, pour être précis.
C'est ça.
Merci à vous. Je rappelle aussi que cette émission Radio Bac sera rediffusée demain matin à 11h05. Elle sera ensuite disponible en podcast sur notre site internet grandsudfm.com. Merci Lionel Isaac. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.
Merci.